Vous êtes bien sûr Radio Prune en compagnie d'Anna et Sylvia et leur émission Au fil des sons, tous les deuxièmes jeudis de chaque mois de 13h à 14h. L'idée de l'émission Au fil des sons est une conséquence de la crise sanitaire que nous avons connue durant cette période de confinement. Nous avons tous pu observer une diminution, voire une suppression des bruits extérieurs tels que ceux de la circulation automobile, des divers travaux urbains, du trafic aérien pour n'en citer que quelques-uns. Cela nous a permis de redécouvrir, de savourer et de se concentrer sur des bruits et des sons plus discrets que l'on avait pu occulter comme ceux issus de la nature environnante qui a alors repris ses droits au milieu de ces temps de silence devenus si rares dans le tourbillon tonitruant du XXIe siècle. Après le micro-trottoir du mois qui débute l'émission, Anna et Sylvia interrogent les sons et les bruits naturels ou urbains afin de les mettre en perspective avec des musiques venant de tout horizon. Ensuite, les musiciens ou les partenaires culturels et artistiques de notre région s'expriment sur leurs ressentis face au contexte sanitaire atypique qu'ils traversent et évoquent leurs adaptations et solutions pour continuer à faire vivre la culture. La rubrique Regard pluriel est l'occasion pour leurs invités surprises d'échanger sur les rappeurs à la musique et au son. Et pour conclure, Anna et Sylvia vous présentent leur coup de cœur du mois.
Bonjour Anna.
Bonjour Sylvia.
Nous sommes ensemble pendant une heure dans Au fil des sons, l'émission de Prune qui nous éclaire sur les sons et les bruits qui nous entourent dans ce contexte atypique que nous vivons encore aujourd'hui et avec lequel nous devons apprendre à vivre.
Puisqu'il s'agit bien de vie et d'harmonie dont nous voulons vous parler avec une proposition de relecture des univers sonores. Ce mois-ci, dans Au fil des sons, nous nous consacrons aux sons issus de l'univers des bruits des transports qui deviennent musique.
Et aujourd'hui, nous donnerons la parole à Adonis, chanteur et guitariste rêveur. Il nous parlera de son premier album, Les Amours Jaunes, qui sortira le 28 novembre prochain. Je marche
dans vos rues. Également, nos invités surprises, Antoine et Manon, partageant leur vie entre Paris, Nantes et Toulouse, nous livreront leur regard au cours de cette période de confinement vécue de mars à mai dernier.
Au fil des sons, c'est donc parti pour une heure avec notre micro-trottoir de novembre qui sera nantais et orléanais.
Capture de voix dans Au fil des sons en compagnie d'Anna et de Sylvia sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Que représente la musique pour vous ?
La musique, c'est une évasion, une émotion, un moment délicat et délicieux.
Bah, ça représente du bon temps, de l'évasion, de l'amusement, de l'abandon, ce genre de choses.
Quelle place la musique tient-elle dans votre vie ?
Très importante. J'en écoute tous les jours et j'adore aller à des concerts. Rock, classique éventuellement, religieux.
Bah, une grande place, peut-être même une trop grande place.
Donnez-nous votre définition de la musique.
Alors là, c'est très très compliqué, parce que la musique, ça peut être un chant d'oiseau et ça peut être du trombone ou du tambour. Donc, il n'y a pas de définition, c'est un son. La musique est un son plus ou moins harmonieux.
La musique, c'est du son auquel notre cerveau donne du sens.
Si vous aviez à fredonner un air de musique, quel serait-il ?
Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot, messieurs.
Allez, viens boire un petit coup à la maison.
Il y a
du rock. Après, je ne me rappelle plus des paroles. Mais...
D'accordéon. Allez, viens boire un petit coup.
A priori, vous la connaissez mieux que moi.
Voilà.
Merci.
Atmosphère. Est-ce que j'ai bien entendu ? Atmosphère sonore ?
Cette deuxième émission, on a choisi de vous parler de la sonorité issue des moyens de transport. Ils nous irritent bien souvent, nous heurtent quand ils sont trop présents, et pourtant, ils nous permettent au quotidien de nous déplacer, de nous émanciper et de gagner en liberté. Nous avons donc associé une musique illustrant le choix que nous avons fait, car ces bruits sont source d'inspiration pour de très nombreux artistes.
peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson.
Cette première captation, vous l'aurez sans doute reconnue, est celle de la célèbre moto américaine qui démarre sur les notes d'une basse qui s'affole, et la voix de Brigitte Bardot dans sa célèbre chanson Harley Davidson, sortie en 1968. Cette belle cylindrée est bien le symbole de la liberté à l'américaine. La chanson porte la marque des années 60s, du rock et de la jeunesse libérée. La voix de Bébé s'accorde parfaitement à la frivolité mélodique de la guitare. La rythmique ronronne comme un moteur parfaitement huilé.
Aïe, aïe, aïe. Revoir aujourd'hui ce clip en noir et blanc où l'on voit Brigitte Bardot chevauchant sa Harley avec fringues et bottes en cuir laisse songeurs et songeuses. Quand on pense ô combien ce symbole sexy à outrance a marqué les esprits à jamais et a réveillé les libidos les plus endormis.
Oui, Anna, homme comme femme, tous succombent au charme ravageur de la belle Brigitte.
Sylvia, la liberté à l'américaine dont tu parles est également présente dans les propos métaphoriques que tient la belle Brigitte. Le fameux « j'appuie sur le starter » peut nous laisser rêveurs et rêveuses. On se demande bien sûr quoi exactement elle est en train d'appuyer.
Dans la même veine, son « je n'ai besoin de personne » montre bien que la moto lui suffit, faisant presque office d'amant le temps d'une chevauchée fantastique.
Je sens en chemin les trépidations de ma machine. Il me monte des désirs dans le creux de mes reins.
Inutile d'analyser pour vous cette métaphore filée suffisamment explicite.
On retrouve d'ailleurs cette liberté américaine dans le film de Dennis Hopper, Easy Rider, sorti à la même époque que la chanson de Gainsbourg. Ce film emblématique de la génération hippie des années 70 nous fait voyager à travers les États-Unis. Et les deux jeunes motards, White et Billy, quittent Los Angeles et prennent la direction de la Nouvelle-Orléans afin de participer à la célébration du carnaval de Mardi Gras introduit en Louisiane par les premiers colons dès la fin du XVIIe siècle.
Justement, la Nouvelle-Orléans, c'est la ville où s'enracine notre deuxième captation avec le film « Un tramway nommé Désir » d'Elia Kazan, sorti en 1951. Adaptation cinématographique de la pièce de Tennessee Williams, parue en 1947.
Brando, the original.
You must be Stanley. I'm Blanche.
Oh, your star sister.
Brando, in the role that made him a star.
I once went out with a dame who told me I'm the glamorous type. She says, I am the glamorous type. I said, so what?
In the performance that made him a legend.
Canary, bro, will you get out of the bathroom?
Marlon Brando in A Streetcar Named Desire. His first major screen role, the one many consider his best. Brando as Stanley Kowalski.
Vous aurez peut-être reconnu la voix mâle et virile de Marlon Brando et aussi malheureusement ses cris de Vivien Leigh et Kim Hunter, illustrant encore une fois les effets de la violence machiste de ce milieu ouvrier des années 50, où les femmes sont encore soumises à une autorité conditionnée par des actes de violence physique pour faire entendre raison à celles qu'ils disent aimer. C'est étrange de penser que c'est ce type de symbole sexuel, homme aux muscles généreux et au visage d'ange, qui puisse attirer la jeunesse américaine de l'après-guerre. Ce mélange de liberté, de douceur et de protection virile, ici incarné dans un même corps, a du mal à faire cohabiter des sentiments si antinomiques.
Un tramway nommé Désir est le second film de Marlon Brando. Il devient d'ailleurs l'acteur phare de sa génération et l'un des hommes les plus sexy de tous les temps, avec cette beauté ambivalente qu'il représente.
Et Marilyn Monroe est le pendant féminin de Brando. Elle oscille entre femmes sensuelles aux charmes multiples, sûres d'une féminité sans faille, et pourtant, que de phare pour cacher sa fragilité, liée à une existence torturée depuis l'enfance.
Le jazz vient bien illustrer cette recherche intérieure au plus intime de nous dans les lieux obscurs et fermés. C'est bien cela qu'Alex North, compositeur de la musique du film d'Elia Kazan, propose en ajoutant à son orchestre une formation de cuivre pour prolonger le lieu du récit, la Nouvelle-Orléans, et faire de cette adaptation de Tennessee Williams le premier film hollywoodien avec une musique jazz en accompagnement.
Cette musique d'Alec North représente bien la moiteur de la Nouvelle-Orléans populaire, que ce soit dans les rues mal éclairées, dans les cours d'immeubles taillés au couteau et offrant une atmosphère des plus lugubres et angoissantes pour tous ceux qui arrivent pour la première fois et qui découvrent cette ambiance. C'est ce que vit Blanche Dubois, aux manières distinguées, au début du film, lorsqu'elle arrive à la Nouvelle-Orléans. Elle prend un tramway, nommé Désir, et finit par atteindre l'appartement minable que sa sœur Stella habite dans le vieux quartier français de la ville. Le tramway est alors perçu comme une allégorie de l'amour entre Vivian Leigh et Marlon Brando, comme si ce tramway du nom de Désir symbolisait la fusion et la passion possible entre deux jeunes gens issus de milieux différents. Il est bien question d'interdits que l'on veut braver et surmonter, coûte que coûte.
Et cette ligne a vraiment existé. De 1900 à 1948, la ligne Désir allait jusqu'à Desai Street, dans le Ninth Ward, en passant par Canal Street et Bourbon.
Ce film, adapté de la pièce de Tennessee Williams, questionne la place du désir dans les années 50. Ce thème du désir est toujours d'actualité et de plus en plus interrogé par les différentes générations, puisque la société est sans cesse en train de devancer nos désirs, avant même que nous ayons pu les exprimer. On s'interroge sur ce qui est autorisé et sur ce qui ne l'est pas. Il n'est plus question que de limites, de bornes, de règles et de normes que nous devons respecter et dans lesquelles nous devons faire taire notre moi intérieur.
Anna, revenons à notre tramway, si tu le veux bien. Cette invention américaine de la fin du 19e siècle occupe aussi une place importante dans la vie des Nantais, depuis très longtemps, puisque le premier tramway à air comprimé en France est né à Nantes à la fin du 19e siècle, grâce à l'ingénieur Mekarski. Pas facile à dire. Nantes réintroduit le tramway dans les années 80, alors que de nombreuses villes l'ont abandonné au profit des voitures durant les Trente Glorieuses. Et aujourd'hui, le tramway est un moyen de transport incontournable dans notre vie personnelle et professionnelle nantaise. Il est utilisé par toutes les générations. Je dirais même que c'est un moyen de transport urbain qui favorise l'émancipation des jeunes et des femmes en leur permettant de se déplacer facilement et librement à moindre coût.
You say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man, I don't want to be the president of America. I say smile, I say cheese, Cartier, I say please, income tax, I say Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate, cause all I want to do is bicycle, 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 I want to ride my bicycle, bicycle, come on, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride.
Cette chanson est venue à Freddie Mercury alors en vacances en France, à Nice. Dans sa chambre d'hôtel, il voit passer le Tour de France. On est en 1978. Cette chanson fait scandale à sa sortie puisque le clip est tourné dans le stade de Wimbledon avec 65 magnifiques mannequins professionnels dans une tenue des plus légères puisqu'elles n'ont que pour seul accessoire des baskets et de grandes chaussettes pour pouvoir pédaler aisément sans se blesser. Alors ce clip, il est censuré, toutefois vous pouvez le retrouver sur YouTube. Pour la petite histoire, le loueur de vélo refusa de reprendre les engins souillés, selon lui, par les jantes dames et Queen a dû faire remplacer toutes les selles.
Mais Freddie Mercury n'en est pas à son dernier mot et il se concentre sur la pochette single en montrant une jeune femme nue de dos sur son vélo. Censurée à sa sortie, elle aussi, une culotte rouge est donc ajoutée pour cacher la nudité de la jeune femme.
Le vélo symbolise la liberté. Il est un moyen de transport personnel, peu encombrant, non polluant et très accessible. En plus, la vitesse modérée et la réitération d'un mouvement circulaire propre à la bicyclette font de celle-ci un objet propice à la méditation.
Et les Nantais méditent actuellement car la ville de Nantes donne une part belle au vélo avec un aménagement grandissant des rues ces dernières années, ces derniers mois. Les aides financières, les subventions pleuvent. Et donc, à chacun son vélo, qu'il soit pliant, biclou, électrique, biporteur, triporteur, avec ou sans remorque. On n'en finit pas de réinventer les possibles de ce moyen de transport. Et on est tous dans une euphorie générale, un peu comme le refrain de Queen.
Bref, on pédale et on médite de plus en plus à Nantes. C'est une chanson joyeuse qui illustre le déplacement à plusieurs, la voiture festive. Cela fait écho avec notre enfance et ces week-ends quand nous partions en famille. Ce changement de lieu avec toute la famille, ce passage d'un lieu à un autre en si peu de temps rendu possible par la voiture nous enchantait et créait de la joie pour tous. Avec mes 5 frères et sœurs, c'était à celui ou celle qui prendrait le moins de place pour permettre à l'autre de glisser ses jambes dans cet habitacle confiné.
Et sans masque.
En effet, c'est bien d'un autre temps de la voiture dont nous vous parlons. À l'instar du vélo, la voiture symbolisait et symbolise encore pour certains la liberté. Certes, objet d'intégration, avoir une voiture, c'est exister socialement. D'ailleurs, le passage du permis de conduire est devenu un rituel d'entrée dans le monde des adultes, marquant ainsi l'accès à une plus grande indépendance.
Oui, il est bien question d'indépendance. Je me souviens quand ma grand-mère a dû, contrainte et forcée, abandonner le volant de sa petite voiture automatique. C'est bien la mort dans l'âme qu'elle disait alors perdre son autonomie.
Au-delà de sa fonction utilitaire, l'automobile révèle bien le statut social de son conducteur. Ainsi, pour certains, il est un moyen d'afficher son aisance matérielle, dans le but d'impressionner, mais aussi de séduire. Et c'est aussi un objet de séduction.
Oui, à grosse voiture... Petit engin, ne dit-on pas?
Et voici l'interview du mois dans l'émission Au fil des sons sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire en compagnie de Sylvia et d'Anna.
Bonjour Adonis.
Bonjour Anna.
Merci d'avoir accepté notre invitation en direct du Café Nadal à Orléans. Alors, Adonis, vous avez quitté le Bénin, votre pays d'origine, en 2010, alors que vous étiez encore bien jeune, pour venir à la conquête de la scène parisienne, avec pour seul objectif en tête, chanter en 2025 sur la scène de l'Olympia, sur les traces, dites-vous, de Charles Aznavour, votre chanteur favori. En lisant votre parcours, on ne peut s'empêcher de penser aussi au héros Rastignac du Père Goriot de Balzac, qui, à la toute fin du roman, après l'enterrement du père Goriot, du haut du cimetière du Père Lachaise à Paris, s'adresse à la capitale en disant ces mots grandioses, « À nous deux, maintenant ». Vous êtes donc un Rastignac à votre façon, puisque conquérant, et comme le souligne votre prénom chargé des strates mythologiques, vous n'en êtes pas à votre première aventure. Rappelons à nos auditeurs que dans la mythologie grecque, Adonis, divinité d'origine orientale, est le fils de Cinyras, roi de Chypre, et de sa fille Myra. La déesse de l'amour Aphrodite n'a pas supporté l'affront que lui a porté Sancrès, la femme du roi, en disant que sa fille Myra est plus belle que la déesse. C'est pourquoi Aphrodite lance cette malédiction dont Adonis est le fruit. Ainsi, lorsque le roi apprend que sa fille Myra va mettre au monde un enfant issu de sa relation incestueuse avec lui, il veut tuer cette dernière. C'est alors qu'Aphrodite, tout à coup frappée de repentir et touchée par la situation dont elle est instigatrice, intervient et change Myra en arbre à myrrhe. Le glaive s'abat sur l'arbre et le tranche en deux. Plus tard, Adonis, devenu adulte, défie son père pour déterminer lequel des deux est le meilleur joueur de lyre. Adonis remporte la victoire. Mais ce n'est pas tout, il excelle aussi en beauté et est disputé par Perséphone et Aphrodite, dont il se partage les grâces. C'est dire ô combien un tel prénom Adonis, et c'est au chanteur à qui je m'adresse, ne peut que vous conduire sur des chemins exceptionnels. De plus, la racine Adon, d'origine sémique, signifie « seigneur ». Autant dire que cela laisse présager une très belle destinée. Alors, parlez-nous de ce parcours qui vous a conduit de Paris à Orléans, dans ce café littéraire nommé Artisane, sous les arcades de la rue Royale, où j'ai eu la chance de faire votre connaissance en juin 2018.
Je vous avoue que c'est justement pour ça que j'en ai voulu pendant longtemps à mon père ou à ma mère, pour cette prétention qui a précédé mon développement. Et en même temps, je pense que j'y ai pris goût, parce que très tôt, je me suis mis à rêver, mais vraiment intensément, de célébrité, d'art. Et de, oui, donc, oui, depuis très très longtemps déjà, au Bénin, j'avais cette idée en tête de faire de la musique, de devenir un grand artiste. Et ça ne m'a malheureusement pas quitté. Par moments, j'ai pu calmer cette voix, mais voilà, ça revenait souvent.
Donc il y a déjà en vous une très grande volonté de réussir dans la musique qui a démarré très jeune.
J'aime dire malheureusement, voilà. Et donc la question c'était comment je suis pas...
Ce passage de Paris, vous êtes arrivé donc en 2010, oui. Vous avez effectué différents travaux dans oui. des domaines qui n'avaient aucun rapport et aucun lien direct avec la musique. Oui. Et tout d'un coup, finalement, vous avez quitté la capitale pour venir à Orléans et puis monter un café littéraire qui, à première vue, prenait une autre direction que directement la direction de la musique.
Tout à fait. Et bien, du coup, déjà, c'est peut-être intéressant de voir comment je suis arrivé à Paris. Donc, c'était en 2010. Je venais de finir une maîtrise de lettres au Bénin. Et j'avais commencé déjà la musique au Bénin. Ça marchait plutôt bien. Et j'avais envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Donc, je débarque à Paris et sans connaître personne. Et donc, très vite, un peu refroidi dans mes élans, dans mes rêves. Comme un peu tout le monde, je pense, j'ai dû enchaîner pas mal de boulot, puisqu'il fallait vivre déjà dans l'instant présent avant de rêver de l'Olympia. Et donc, tout ça, ça a pris, je pense, 4-5 ans. Et pendant ce temps, j'ai croisé la route, j'ai croisé un peu l'amour, je dirais, entre guillemets. Un enfant, un garçon, et puis bizarrement Paris a changé un peu pour moi. Donc Paris n'était plus un peu cet objectif suprême, voilà. Et je commençais à avoir envie de calme, de tranquillité. C'est aussi le moment où il y a eu un premier projet avec d'ailleurs un label. Donc j'avais une signature dans un label. Ça ne s'est malheureusement pas fait. Donc du coup je me suis dit bon, j'aurais tout essayé. La musique on oublie. On se calme, on devient sage et on part pour Orléans.
Pour voilà. Une parenthèse.
C'est ça, exactement.
Alors, peut-être faisons le lien avec cette parenthèse, puisque comme nous tous, vous avez vécu cette période de confinement de mars 2020 à mai 2020. Et cela, finalement, vous a conduit à cesser votre activité de passeur de textes et de musique dans ce café littéraire orléanais. Pour vous, un déclic se produit comme une urgence et cette période a été particulièrement créatrice. Donc, stoppant votre activité dans ce café littéraire, vous décidez de vous remettre à vos premières amours, la musique. Et donc, ma question est la suivante. Quel rôle la musique joue-t-elle selon vous et en quoi, finalement, peut-elle, plus que jamais, nous aider à supporter cette période douloureuse que nous connaissons tous?
C'est très intéressant parce que même moi, je ne me suis jamais posé la question ainsi. Et en fait, la musique, finalement, apparaît un peu comme un secours pour moi à mes propres dépens, je dirais. Et donc, le confinement qui était intervenu en mars, donc il faut se rappeler quand même que je pense que c'était le 14 mars que je découvrais qu'il fallait, donc il y avait la décision gouvernementale de couper et de fermer vraiment tous les établissements, dont le mien. Et à ce moment, c'était dur, parce que c'est aussi tout un projet. Ce café commençait pas à marcher, il y avait du monde, il y avait des événements qu'on programmait, des ateliers et tout ça s'arrêtait d'un coup. Et j'avoue que les premiers jours, j'étais en colère. C'est pas possible. Et les jours suivants, j'ai commencé à lentement accepter, à me dire, ok, il y aura les charges, je ne pourrai pas les gérer. Je venais d'embaucher du personnel, je ne pourrai plus peut-être. Et en fait, j'ai commencé à accepter le fait que tout s'arrêtait. Et il y a eu une tristesse, mais vraiment profonde. Et une solitude, j'avoue, quoi. Même si, voilà, j'étais très bien entouré. Mais cette solitude qui fait que tout ce qui me restait, en fait, j'ai eu vraiment comme un éclair de me dire, en fait, quand il n'y a plus rien, ben, qu'est-ce qui reste? C'est vraiment la seule chose, la plus importante, en fait, depuis toujours. Et ça m'est devenu évident à ce moment. J'ai pris la guitare, je me suis remis à composer des chansons, à chanter, tout simplement chez moi, sans aucun objectif. J'ai fait des petites vidéos et, en fait, je pense que ça a touché pas mal beaucoup de gens de ma clientèle qui se sont révélés aussi à moi autrement, autre que juste des clients. Et en fait, c'est ça. Et la musique est repartie vraiment comme ça.
Alors, c'est très intéressant parce que vous parlez dans un premier temps de colère et dans un second temps de résignation. Et finalement, dans cette résignation et le repli, une mise à l'écart, on se retrouve seul chez soi finalement. Et là, l'énergie revient. Alors, vous avez répondu un petit peu à cette idée de comment peut-on créer dans des conditions de confinement, et y a-t-il finalement dans cette période de soumission à la maladie que nous connaissons, on nous dit qu'on est dans cette soumission face à une maladie qui est là, présente, qui peut toucher différentes personnes, et finalement derrière ça, derrière, eh bien, il y a la présence de l'État. Et donc comment, face à ces deux choses, faire attention aux autres, mais dans le même temps se soumettre à des décisions très autoritaires venant de la part de l'État, comment justement cette urgence à prendre la parole plus que jamais s'impose-t-elle?
Alors déjà, une chose, c'est que moi, alors c'est peut-être un peu naïf, hein, je sais que, mais c'est une naïveté dont j'ai fait le choix, qui est de me dire que la contrainte, c'est aussi ce qui, moi en tout cas, me permet de créer. Et paradoxalement, quand j'avais aucune contrainte, quand il n'y avait pas le coronavirus, quand il n'y avait rien, eh bien justement, je ne créais pas tant que ça. Et que donc, je ne suis pas en train de faire non plus l'apologie de la rigidité et tout, oui. Mais en me disant que tout fait partie de la vie, un peu, je le vois comme ça. C'est sûr qu'il y a des jours où je suis moins philosophe que ça, mais globalement, moi, cette période où réellement on se rendait compte que sortir, voir les siens devenait dangereux ou qu'il y avait cette décision, en tout cas qui s'imposait à nous tous, qu'il fallait se confiner, eh bien, je me suis dit, justement, on peut confiner plein de choses, mais on ne nous oblige pas à confiner notre esprit. Voilà, donc du coup, moi, au contraire, paradoxalement, c'est le moment où j'ai eu plus envie justement de créer, de parler aux autres, de les retrouver autrement. Et après le confinement, comme on a toujours un peu ça sur les grands spectacles ne sont pas possibles, donc je me suis dit, eh ben c'est très bien, on peut faire du coup des tout petits spectacles dans des jardins privés. Et en fait, j'ai été même surpris moi-même du fait que ça apportait quelque chose de différent. Donc on avait fait des concerts à peine 15 personnes, mais en même temps, l'échange était tellement fort, il n'y avait pas d'amplification, en fait, c'était direct, il n'y a pas de tricherie possible, mais en même temps, c'était puissant. Après, il y a l'autre question de comment on en vit de ça, mais oui. J'ai pas encore trouvé de solution à ça, mais...
On revient à ce plaisir de l'intimité dans des toutes petites salles de spectacle, par exemple dans le Paris de l'entre-deux-guerres où les salles de jazz ont commencé à se créer. Peut-être on va retourner vers ceci, je ne sais pas. Alors, à vous entendre, on voit bien évidemment que la musique semble être source de vie chez vous. On sent aussi, lorsque l'on vous écoute, une générosité très forte, comme si vous vouliez à tout prix nous donner quelque chose. Alors, d'où vient chez vous cette part du don de soi?
Je ne sais pas. Honnêtement, ce qui est sûr...
C'est une grande force.
Ouais. Après, il faut peut-être que je sois honnête aussi. J'ai l'impression que c'est plus un échange que je... En fait, j'aime l'avouer en disant il y a une recherche d'amour de ma part.
Oui.
Et qu'en échange de ça, ben, je me suis rendu compte que la seule façon d'obtenir de l'amour des autres de façon saine, c'est d'en donner aussi. Donc, je suis peut-être moins altruiste que stratège, je ne sais pas.
C'est très bien. Alors, dans cette période, nous sommes tous muselés par ce masque. On porte même ce masque pendant ce temps de l'interview. Donc ce masque, nous devons porter en permanence. Il devient très compliqué, voire impossible parfois, de prendre la parole. Et en préparant cette émission, vous m'avez parlé de votre projet de partir à la conquête des routes d'Europe avec un petit van pour aller au-devant des spectateurs. Alors, comment cette idée vous est-elle venue et comment allez-vous organiser pour mener à bien cette nouvelle conquête ?
Et c'est vrai que ça paraît peut-être un peu paradoxal, mais en même temps, c'est un peu tout ce qui m'arrive ces derniers temps qui m'ont l'air... Donc, je l'assume jusqu'au bout en me disant que, OK, tout s'arrête... Et en même temps, je me suis rendu compte quand même que j'ai commencé par une idée toute simple qui est de me dire on va passer dans les jardins privés à Orléans de tous ceux qui veulent nous recevoir et qui veulent inviter des amis tout en respectant un peu les conditions actuelles sanitaires. On a commencé comme ça et tout petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me rendais compte que quelqu'un m'écrit en disant nous on habite en Pologne, on aimerait beaucoup, on a un grand jardin. Au début, je me disais, mais non, c'est pas possible, c'est pas le moment de voyager du tout. Au contraire, rien n'incite à voyager, tout incite à rester chez soi, déprimé et tout. Mais je me suis dit, en fait, finalement, puisqu'on ne peut pas faire des grands spectacles, rien n'empêche d'aller à la rencontre un peu de ces petits groupes de petites. Voilà,
d'échantillons peut-être.
D'échantillons, mais qui veulent nous recevoir.
D'une population cosmopolite.
C'est ça. Et ça a toujours été aussi ce dont moi j'ai rêvé, en fait. Et pour moi, la musique, c'est justement ça. C'est-à-dire que ça me permettait d'aller à la rencontre des autres. Moi, j'ai vraiment pas envie de faire la musique, même si j'adore ma famille et les miens et tout. Mais voilà, ce qui me motive dans ça, c'est vraiment d'aller toucher les autres, qu'il y ait un lien et tout. Donc, on s'est dit, on va faire ça jusqu'au bout. Et on a commencé il y a 2 semaines. On est allé directement comme ça en Suisse, à Genève. Ensuite, à Comines, qui est une ville juste à côté de Genève. C'était super. Il y avait 10-15 personnes que je ne connaissais pas du tout. J'en connaissais juste une qui a regroupé tout le monde. Et c'était magnifique. Donc, on s'est dit, on va étendre ça. Et donc, bientôt, et j'espère, on sera à Nantes. On sera à Angers après, donc... Nantes,
alors à Nantes peut-être début décembre.
Début décembre, voilà. J'ai hâte de vous y revoir. Et puis, on va faire un peu ça dans beaucoup dans des villes de France moyenne. Sachant que, parce que l'album, j'ai voulu le démarrer aussi avec une chanson qui s'appelle Le Tour du Monde. Et donc, pour moi, de façon modeste, mon tour du monde, c'est déjà de commencer à passer dans des villes sans grande prétention, avec ma guitare, avec mon cœur, et puis.
Très bien. Alors, votre premier album, Les Amours Jaunes, sort dans les bacs le 28 novembre 2020. On connaît l'expression « rire jaune ». On connaît aussi le recueil du poète Tristan Corbière du même nom, « Les Amours Jaunes », publié en 1873, alors que le poète n'a que 27 ans, et dans lequel l'expression lyrique de ses sentiments, « les amours », est constamment associée au rire jaune. Et il évoque également son extrême laideur physique dont il a du mal à s'affranchir, notamment dans un poème fameux au titre révélateur, Le Crapaud. Alors, votre sourire franc et lumineux vous éloigne bien loin de ce manque d'assurance qu'avait le poète défunt. Et ma question est la suivante, pourquoi vous avez-vous choisi ce titre, Les Amours Jaunes ?
Détrompez-vous déjà sur mon sourire. Il cache peut-être... Non, je dirais que... ce titre, donc, c'est une amie qui m'a parlé de ce recueil-là, Les Amours Jaunes, et franchement, ça m'a touché tout de suite, ça m'a parlé tout de suite, pour deux raisons. Je pense que je parle beaucoup d'amour dans mes chansons, mais pas d'un amour, j'aurais voulu que ce soit un amour rose et tout ça, mais d'un amour un peu piquant, et qui parle un peu de la condition humaine aussi. Et donc pour moi, la couleur jaune, en fait, c'était vraiment, c'est un peu ce que je pense en tout cas, ressort un peu de ma façon de voir la vie, de voir l'amour, de voir... j'aime dire souvent, quand on me dit pourquoi jaune, j'aime dire jaune comme la fièvre, quoi. Donc du coup, je trouvais que les amours jaunes illustrent parfaitement ce que je dis dans une chanson comme Les Couleurs, par exemple, ou quel autre... En fait, j'espère que vous les découvrirez et que vous les apprécierez, mais que c'est ce mélange un peu de, en même temps de beauté et en même temps de dureté de la vie, et que c'est cette rencontre que moi j'aime finalement dans l'art. Je vois la vie ainsi, je la vois pas comme un boulevard de roses. Mais je ne la vois pas non plus comme un drame sans fin, mais comme cette fusion un peu de deux choses un peu doux et en même temps dur. Voilà.
Et vous parliez de fièvre. Dans la fièvre, il y a de la passion.
C'est ça, exactement. Il y a de la passion et il y a aussi de la chaleur. Il y a aussi en même temps... moi, j'ai grandi en Afrique. Je sais qu'on nous vaccine très vite contre la fièvre jaune et tout. Donc, c'est quelque chose qui est redouté.
D'accord.
Et en même temps, c'est intense. Et donc, du coup, voilà, c'est ce... Ça illustre. J'aurais pu dire la fièvre jaune d'ailleurs. Mais bon, les amours, je préfère.
Très bien. Merci à Denis pour nous avoir accordé cet échange si riche dans votre emploi du temps, sûrement très rempli à la veille de la sortie de votre premier album. On vous souhaite le plus beau parcours qu'il soit et on attend avec impatience à Nantes début décembre. Et aussi, on a hâte de venir vous applaudir à l'Olympia de Paris en 2025. Il est important de savoir se projeter vers de beaux horizons. Et on va vous écouter maintenant
avec grand plaisir.
Cette avant-première
super.
Que vous nous offrez
super.
Maintenant avec ce morceau qu'on va écouter avec vous.
Cible, tu verras que dalle, c'est mystérieux. Un jour elle s'amène, te fout le feu. Puis un jour elle s'en va et t'es malheureux. Des fistons, te pose pas mille questions. Mais pourquoi on voit les couleurs? Et pourquoi on croit les rumeurs? Moi, je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui rit. Je voulais sentir les fleurs du jardin de l'intérieur. On m'a dit regarde, la terre, c'est rouge. Y a tout qui bouge. Les humains ont bu trop de pétrole. On va dans le trou, y a plus de sous-sol. On m'a dit, jeune homme, te pose plus trop. Question. Regarde, la vie c'est noir. On m'a dit prends garde quand vient le soir. Cherche pas, y'a pas d'échappatoire. Ne bouge pas, c'est juste un purgatoire. M'a dit vieillard, te pose plus mille questions. Pourquoi on voit les couleurs? Et pourquoi on croit le malheur? Moi je voulais lire dans vos cœurs, entendre l'enfant qui rit, qui pleure. Laissez-moi toucher les fleurs du jardin de l'intérieur.
Oui, un très grand merci à vous, à Denis. On se fera en effet une joie de vous retrouver à l'Olympia en 2025. Et en attendant, nous découvrirons avec nos auditrices et auditeurs votre premier album, Les Amours Jaunes, qui sortira dans les bacs le lundi 28 novembre 2020. Vous pouvez aussi suivre toute l'actualité d'Adonis sur son site Facebook.
Regard pluriel avec l'invité surprise de l'émission Au fil des sons.
Les invités surprises aujourd'hui vivent à Paris. Manon est originaire de Toulouse et Antoine de Nantes. Nous avons réalisé cette interview en août dernier à Noirmoutier, lors de leurs vacances, sur cette bande de terre reliée d'une part au continent par un gua, chaussée submersible à marée haute et dont les premières empreintes datent du 19e siècle, et d'autre part par un pont qui est ouvert au trafic depuis 1971. C'est la seule île accessible à pied à marée basse et elle fait bien évidemment le bonheur des pêcheurs à chaque grande marée.
Nous sommes le 16 mars 2020. Notre président de la République nous annonce solennellement qu'il n'est plus possible de se déplacer librement, d'entrer en contact avec plus de 5 personnes jusqu'à nouvel ordre dans notre pays. Jamais en temps de paix, la France n'avait adopté de telles mesures. Aujourd'hui, nous recevons Antoine. Alors Antoine, vous avez fait vos études à Nantes, puis à Rouen, dans une école de commerce, l'école de commerce de Rouen, Neoma. Aujourd'hui, vous êtes responsable du concours général agricole vin à Paris. Et nous recevons également Manon, qui, après avoir préparé un double diplôme en école de commerce et Sciences Po Toulouse, vous êtes aujourd'hui chef de produit dans une maison d'édition à Paris également.
Absolument.
Voilà, donc si je vous ai invité aujourd'hui, tous les deux, eh bien c'est pour avoir votre avis et votre ressenti sur cette période atypique qui nous a conduit, en fait, enfin en tout cas une bonne partie de la population française, à reconsidérer leur rapport à la ville et à ses ambiances sonores. Qu'avez-vous compris de cette annonce et comment l'avez-vous vécu finalement, Antoine ?
J'avais compris, moi, que du coup, on ne pouvait plus sortir de chez soi, qui, voilà, donc, ce qui était assez surprenant, on ne pouvait pas s'y attendre, étant donné qu'on n'avait jamais connu de confinement généralisé auparavant. Et donc, il y avait un sentiment d'urgence, étant donné qu'on devait trouver une solution pour savoir si on restait donc, chez nous à Paris, si... on bougeait donc dans les 24 heures pour rejoindre donc notre famille en dehors de Paris, donc ça amenait justement réflexion rapide et décision rapide.
Et vous Manon, est-ce que vous étiez dans ce sentiment d'urgence comme Antoine a pu l'être avec cette réflexion à mener rapidement autour du fait de devoir quitter ou pas Paris?
Bien sûr, c'est vrai qu'on n'avait même pas 24 heures pour décider quel allait être notre lieu de confinement. On a tous été très surpris. Je pense qu'on s'attendait à des mesures restrictives, mais à de telles mesures. Je pense que tout le monde a été surpris, et notamment notre génération. On a vraiment jamais connu une restriction au niveau de la liberté de mouvement, donc ça a été très surprenant. Et oui, en effet, on a dû prendre une décision très rapidement.
Et vous ne l'aviez pas du tout finalement anticipé, ou avant l'annonce, vous y aviez déjà un petit peu réfléchi, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vivez tous les deux à Paris, dans le 5e arrondissement, et vous vivez avec deux autres personnes, donc vous êtes en colocation. Hein, et est-ce que vous en aviez parlé entre vous, ou en fait, non, vous travailliez, vous n'étiez pas du tout préparé?
Je pense qu'on n'était pas préparé à ce point. Alors, anticipé, oui, parce que d'une certaine manière, il y a eu déjà la fermeture des écoles un petit peu avant l'annonce du confinement total. Et vu qu'on vit notamment avec une personne qui est à la fac, on s'est douté qu'il y allait avoir un cheminement vers quelque chose d'un peu plus global. Mais on ne pouvait pas imaginer une situation telle. On pensait que ça allait durer entre 2 et 3 semaines, hein, c'est ce qui avait été prévu. Donc non, je pense qu'aucun de nous quatre n'avait imaginé une situation comme celle-là. Je ne sais pas, Antoine, ce que tu en penses.
Non, c'est exactement ça. On n'avait pas anticipé. Et en tout cas, on ne pouvait pas prévoir à l'avance un confinement généralisé, global et aussi strict avant l'annonce du président.
Alors Antoine, vous avez décidé de rester à Paris. Hein, quant à vous, Manon, vous avez fait le choix de quitter Paris pour rejoindre votre famille dans le sud de la France, à Toulouse, près de Toulouse en tout cas. Alors Antoine, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de rester à Paris et de ne pas rejoindre votre famille à Nantes? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Comment a-t-il été fait ce choix? À partir de quels critères?
Alors moi, ça fait plusieurs années du coup que j'ai quitté le domicile de mes parents pour mes études et donc, ensuite pour pour mon travail. Donc c'est vrai que j'ai pris mes habitudes et je suis plutôt indépendant. Donc c'est vrai que je voulais garder cette indépendance et cette liberté, au moins dans le confinement, d'être chez moi et de, voilà, de pouvoir faire ce que je veux chez moi et sans voilà, avoir à subir, entre guillemets, le rythme d'autres personnes.
Et vous, Manon, vous avez hésité à regagner le domicile de vos parents ou bien ça a été pour vous une évidence ?
C'était évident qu'on ne pouvait pas rester tous les quatre ensemble. On est une colocation, mais on a des vies très indépendantes. Soit on travaille, soit on va à la fac. Donc là, ça aurait signifié être tous les quatre, 24 heures sur 24, dans un appartement. Et donc, modifier tous nos modes de vie, nos comportements. Donc, c'était pas possible. Et puis moi, c'est vrai que ça a été une évidence. Pour Antoine, c'est vrai que... finalement, son confort à lui, c'est de se sentir dans sa maison, chez lui. Et puis moi, mon confort, c'est plus d'avoir un espace où m'isoler, avoir un environnement assez naturel autour de moi. Donc oui, ça a été une évidence de retourner dans le sud, chez ma famille, dans la maison, un peu dans ma maison d'enfance, avec un jardin, etc. Pour moi, c'était vraiment ça, le confort.
D'accord, donc vous Antoine, donc, vous êtes à Paris, mmh. vous avez donc vécu ce confinement dans le 5e arrondissement, mmh. hein, donc, qui est un près du quartier Mouffetard, quartier plutôt animé, qui compte de nombreux commerces et restaurants, quartier plutôt agréable, où il fait bon vivre d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu, vous, pendant cette période, votre quartier changer ? Est-ce qu'il est resté aussi animé ou au contraire est-ce que vous avez vu en effet son animation diminuer
Globalement ça a diminué l'activité étant donné que la plupart des magasins étaient fermés, les gens se déplaçaient beaucoup moins dans les rues, au départ les restaurants étaient également fermés, donc c'est vrai que bon, l'activité était très basse. Il y a beaucoup moins de voitures dans les rues, donc moins de passages, moins de bruit. Par contre, c'est vrai que dans le quartier, il y a beaucoup de magasins de bouche, donc des boucheries, boulangeries, poissonneries. Donc c'est vrai que la plupart des gens se retrouvaient notamment en bas de la rue Mouffetard, où il y a tous ces magasins, pour faire leurs courses. Et donc on pouvait voir parfois, notamment le samedi matin, une activité qui ressemblait beaucoup à une période normale.
Donc vous n'avez pas observé, en tout cas finalement, un si grand changement d'ambiance sonore dans votre milieu, enfin en tout cas dans ce quartier dans lequel vous viviez et dans lequel vous descendiez bon, une fois par jour, je suppose. Est-ce que vous...
dans la rue, en tant que tel, Mouffetard, comme je disais, non, pas forcément. Après, de notre appartement, qui est de base... une rue moins passante, où il y a moins de justement tous ces magasins, ces petits commerces de bouche, il y avait quand même moins d'activité, moins de bruit, moins de voitures, et donc voilà, vous pouvez entendre les voisins d'en face, il y a quand même eu quelques changements, mais voilà, il y avait quand même de l'activité, il restait quelques voitures, c'était vraiment le fait d'entendre les voisins, notamment quand il faisait chaud et que les fenêtres étaient ouvertes, que les gens étaient sur les balcons, là on pouvait justement entendre un peu ces personnes qu'on n'a pas l'habitude, enfin en tout cas pas l'opportunité d'entendre étant donné le bruit ambiant.
Et donc vous, Manon, vous êtes à Toulouse, près de Toulouse, en tout cas dans en campagne. Hein, vous avez été plus sensible au bruit, au son. Est-ce que vous avez retrouvé des bruits et des sons, justement, que vous aviez oubliés ou...
C'est vrai que moi, j'ai plutôt eu l'occasion de redécouvrir des sons et notamment l'environnement sonore de mon enfance, puisque j'ai grandi dans cette maison. En fait, moi, j'habite à Paris maintenant depuis un an et demi, ce qui n'est pas si long que ça. Donc, moi, je suis plutôt mal habituée à la rumeur urbaine un peu parisienne et au bruit incessant du quartier. Et le confinement a été pour moi l'occasion un peu de me reconnecter avec ce que j'avais connu dans mon enfance, réécouter les bruits de la nature, les insectes, entendre l'eau qui coule, entendre les voisins, parce que à la campagne, c'est vrai que... Il y a tellement peu de bruit que la moindre animation est entendue par l'ensemble du voisinage. Voilà, ça a été plutôt une reconnexion avec l'environnement sonore de mon enfance, plus qu'autre chose.
Le 11 mai, malgré tout, c'est le déconfinement. On finit par, comme on vous disait, déconfiner. On a donc déconfiné. Quelle a été la première chose, Antoine, que vous avez eu envie de faire dès lors que vous aviez retrouvé la liberté de circuler un petit peu plus librement?
C'était assez simple, c'était me balader sans restriction, sans faire une attestation avant de sortir de l'appartement, aller où je veux, par exemple aller voir la Seine qui était trop loin du coup de mon périmètre accepté, et puis voir du coup des amis qu'on ne voyait plus là, pendant plusieurs mois, ou en tout cas pas directement en réel entre guillemets, et donc voilà, c'était assez simple, c'était juste me balader et retrouver du lien social.
Et quelle est la chose finalement que vous avez pour laquelle vous avez pris le plus de plaisir à faire ou à refaire à la fin de cette période? Ou un bruit que vous avez réentendu, que vous n'entendiez plus et que vous aimiez entendre avant le confinement, est-ce que vous avez retrouvé?
Les bruits sont pas forcément très agréables. C'est des bruits de voiture, donc c'est toute l'activité urbaine. Donc c'est pas forcément des bruits qui font plaisir à entendre. Mais après, c'est... si je dois... trouver un moment agréable qui a été revécu, c'est vraiment la rencontre à nouveau avec les amis, avec la famille, prendre le temps de se revoir en buvant un verre, en mangeant un repas, et c'est surtout ça moi qui m'a fait plaisir.
Et vous, Manon, donc vous avez regagné la capitale une fois que le confinement a été terminé. Est-ce que finalement Paris vous manquait à la fin du confinement, ou est-ce que vous seriez encore resté un peu plus longtemps?
Alors moi, ça a été un sentiment un peu ambivalent parce que je suis pas sortie de chez moi en fait pendant 2 mois et demi. Je ne suis jamais allée faire les courses, je n'ai jamais eu l'occasion de sortir. Donc c'est vrai qu'à l'annonce du déconfinement, il y a eu un petit peu un sentiment ambivalent, à la fois d'une liberté retrouvée, de savoir qu'on allait pouvoir, entre guillemets, reprendre nos vies à la normale, et puis un sentiment d'anxiété énorme, puisque j'avais été un petit peu coupée du monde extérieur pendant tout ce temps, et je ne savais pas... Je savais plus trop comment ça se passait, le port du masque m'angoissait énormément, savoir voilà, comment on allait se placer par rapport aux autres, avec la distanciation sociale, etc. Mais c'est vrai que Paris m'avait beaucoup manqué. Après, c'est vrai qu'il a fallu du temps pour qu'on retrouve vraiment la ville qu'on connaissait, avec les terrasses dehors, les gens qui n'ont plus peur, qui discutent ensemble, qui sont dans les parcs, qui sortent. Il a fallu quand même attendre un bon mois. Donc, avant de retrouver le Paris que j'aime, c'est vrai que ça a été assez long.
Donc, vous nous disiez que finalement, pendant cette période de confinement, vous étiez resté enfermé, en fait. Vous n'étiez pas sorti, ou quasiment pas.
Pas du tout.
Qu'avez-vous fait finalement de cette période?
Ah, ça a été, pour ma part, ça a été une période assez, assez constructive. Déjà, c'est vrai que dans nos vies parisiennes, on a rarement le temps de se mettre sur pause. On est énormément sollicité, que ce soit dans le transport, dans le travail, dans le lien social. On est assez jeune, donc on bouge tout le temps. Donc ça a vraiment été l'occasion de se poser, d'accepter le fait de rester chez soi. Et puis surtout, ça a été un grand moment de partage, moi avec ma famille, on a vraiment refait des activités ensemble, etc. Donc ça a été assez constructif, et ça a aussi été beaucoup de temps pour penser, se poser des questions, réfléchir à des projets qu'on n'a pas eu le temps d'aboutir, etc. Donc c'est vrai que le confinement a été très bénéfique de mon côté.
Et vous diriez la même chose, Antoine, pour vous le confinement finalement a été bénéfique? Est-ce que ça a été une période pour
vous? Oui, il y avait un côté agréable pouvoir se retrouver, se poser un peu.
Si vous deviez nous donner un morceau de musique qui vous a accompagné pendant cette période, quel est-il ? Est-ce qu'il y a une musique, Manon ?
La musique que j'ai énormément écoutée pendant le confinement s'appelle Mystery of Love de Subjan Stevens. En fait, c'est la bande-son d'un film que j'ai vu la première semaine du confinement, que j'ai revu, qui s'appelle Calling by Your Name, et finalement qui a fait beaucoup écho à la période, parce que voilà, c'est l'histoire de deux garçons qui sont qui passent leur été dans une maison d'été italienne et qui découvrent leur amour, etc. Donc finalement, même si on n'a pas vécu la même histoire, mais voilà, c'est vraiment le fait que ce confinement ait été une redécouverte et qu'on a pu plus se retrouver. Donc ça a vraiment, cette musique a vraiment rythmé mes 2 mois et demi d'enfermement.
Et vous, Antoine, est-ce qu'il y a...
Une chanson, c'est l'album des Strokes qui ont fait leur retour donc, pendant le confinement. Ils avaient sorti leur single juste avant, et donc y a le confinement qui a été déclaré. Donc l'album est sorti pile à ce moment-là, et donc j'en ai profité pour l'écouter plusieurs fois en entier. Donc ça m'a accompagné pendant tout le confinement.
D'accord, écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir fait partager votre vécu et votre ressenti pendant cette période inédite. À bientôt.
Merci Antoine et Manon pour ce partage d'expérience et la fraîcheur de vos propos.
Le coup de cœur du mois d'Anna et Sylvia dans Au fil des sons sur Prune 92 FM et en DAB+ sur Saint-Nazaire.
Notre coup de cœur du mois est l'œuvre de Fabrice Hibert, intitulée « Voiture à double tranchant », créée en 1997. Œuvre que vous pouvez voir au Musée d'art de Nantes, au sous-sol du Cube, espace dédié à l'art contemporain. L'artiste a inventé un bolide rouge, étrange et absurde, constitué de 2 avant-corps accolés du modèle Wartburg 353, fabriqué dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Cette automobile comporte 2 leviers de vitesse au plancher et un pilotage dans 2 directions. L'artiste ironise à travers son œuvre sur la période post-communiste et illustre à travers son œuvre l'échec de cette utopie.
En effet, communisme et après-communisme, si l'on considère que cette période commence après la chute du mur de Berlin en 1989, ont conduit dans des directions totalement opposées, que cela en est devenu parfois incompréhensible pour tous. Et c'est sans doute cet état d'incompréhension qui nous laisse dans une impasse explicative que l'on ressent devant cette œuvre. Acte politique, le message de cette œuvre nous apparaît donc à la fois d'ordre historique et politique, mais aussi sociologique et économique, puisqu'il s'agit aussi de conduire nos existences dans la bonne direction dont nous avons à nous interroger au quotidien. La question du choix semble centrale. Où allons-nous ? Sommes-nous encore capables d'octroyer une confiance à ceux qui nous dirigent et que nous avons élus ?
Demos et Kratos ont bien du mal à vivre ensemble aujourd'hui.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au fil des sons, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous tenons à remercier Adonis, Antoine et Manon de Paris pour le temps qu'ils nous ont consacré. Et bien sûr, un très grand merci à Jean-Pierre à la réalisation sans qui cette émission n'existerait pas, et également à toute l'équipe de Prune 92 FM. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur www.prune.net.
On se retrouve jeudi 10 décembre 2020 de 13h à 14h pour une nouvelle émission de Au fil des sons qui sera cette fois-ci consacrée à l'univers des souffles sur Prune 92 FM. Et en DAB+ sur Saint-Nazaire. À suivre la playlist. Bonne journée à tous.